Vous écoutez France Culture.
Bonjour. La première puissance d'Amérique latine basculera-t-elle à l'extrême droite? Jair Bolsonaro est aux portes du pouvoir. 147 millions d'électeurs brésiliens décident aujourd'hui de lui donner la fonction suprême ou pas. Nous retrouverons Nathanaël Charbonnier à Rio de Janeiro dans ce journal. Il crachait sa haine des juifs depuis des mois sur les réseaux sociaux. Robert Bowers a tué 11 personnes hier dans une synagogue de Pittsburgh au nord-est des États-Unis où les crimes antisémites sont en hausse, nous dira Loïc Lory depuis New York. 50 ans de carrière et un rire inoubliable, l'homme de télévision et de radio Philippe Gildas est mort la nuit dernière. Entre 54 et 55% des Brésiliens devraient choisir le candidat de l'extrême droite ce dimanche pour l'élection présidentielle. Jair Bolsonaro, ancien capitaine de l'armée, nostalgique de la dictature et d'un temps où l'homosexualité restait au placard et les femmes hors de la sphère publique, devrait s'imposer, si les sondages ne se trompent pas. Face à lui, le candidat de la gauche, Fernando Haddad, soutenu par l'ancien président Lula, n'a obtenu qu'un peu moins de 29% des voix au premier tour de la présidentielle. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Vous vous trouvez à Rio, où les bureaux de vote, comme dans le reste du pays, ont ouvert il y a une demi-heure.
Oui, nous sommes devant le collège Bennett, dans le centre de Rio, et dès 7h30 ce matin, soit bien avant l'ouverture des bureaux de vote, il y avait foule, la queue pour aller voter. Et le premier qui a voté ici s'appelle Robert Delamer, il a voté Bolsonaro parce qu'il ne veut pas de communistes au pouvoir, et c'est l'argument qui revient sans cesse quand on pose la question aux électeurs présents. Pourquoi Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite qui veut le retour de la dictature? Pourquoi voter pour lui? Pourquoi doit-il devenir le prochain président du Brésil? Pour cette femme, c'est simple.
Je suis brésilien, je ne suis pas rouge. Pas rouge.
Pas communiste.
Non.
Mais le pays a besoin de changement pour vous.
Ah, il a besoin de changement. C'est très, très important.
Envie de changement, atmosphère de dégagisme. Il est clair que le Brésil s'apprête à changer de direction dans les heures à venir. Et ce n'est pas l'ombre de la dictature qui peut faire peur, car dans beaucoup d'esprits ici, la dictature se trouve plus à Cuba ou au Venezuela que dans le programme de Jair Bolsonaro.
Alors les sondages placent Jair Bolsonaro en favori. Ce second tour est-il joué d'avance, Nathanaël?
Alors si l'on en croit les derniers sondages, il pourrait quand même y avoir un petit peu de suspense. Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, termine la semaine à 54% d'intention de vote contre 46% à Fernando Haddad, le candidat de la gauche. Il y a une semaine encore environ, les deux candidats étaient séparés de 10 points. Mais petit à petit, l'écart s'est resserré. 59, 58, 56% et finalement 54%. Bolsonaro a fondu lentement. Il faut dire que la gauche n'a pas ménagé sa peine cette semaine. Mais elle s'est réveillée un peu tard. Dans un premier temps, après le premier tour, elle avait été sonnée. Et puis petit à petit, elle a repris des couleurs. Mais il manque encore quelques points pour espérer l'emporter. Résultat maintenant d'environ 7 heures ici au Brésil. En heure française, cela fait aux alentours de 23h minuit.
Merci Nathanaël Charbonnier en direct de Rio de Janeiro avec Jean-André Janekini pour les moyens techniques. Le groupe État islamique a repoussé les forces démocratiques syriennes soutenues par Washington selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 7 semaines après une offensive lancée par la coalition de combattants kurdes et arabes pour chasser les djihadistes de l'est de la Syrie à la frontière irakienne, 72 combattants de la coalition et 24 djihadistes sont morts dans ces affrontements. Damas, c'est l'un des plus beaux musées du pays qui rouvre ses portes aujourd'hui. Le musée national de Damas abrite la principale collection archéologique de Syrie. Il était fermé depuis le début de la guerre jusqu'à aujourd'hui. Les drapeaux sont en berne aujourd'hui aux États-Unis après l'attaque dans une synagogue de Pittsburgh en Pennsylvanie dans le nord-est du pays. Bilan 11 morts dont 4 policiers et 6 blessés. Tous les juifs doivent mourir, a crié Robert Bowers avant d'ouvrir le feu armé d'un fusil d'assaut et d'au moins 3 pistolets. L'Américain de 46 ans s'est ensuite rendu à la police, a été placé en garde à vue puis transféré à l'hôpital. Il s'agit de la pire attaque antisémite de l'histoire récente des États-Unis dans un contexte de recrudescence des violences contre les juifs. À New York, Loïc Lory.
Robert Bowers faisait étalage de son racisme et surtout de son antisémitisme sur les réseaux sociaux. Si cette attaque par sa violence est inédite ces dernières décennies, eh bien ses convictions, elles, se diffusent depuis quelque temps. Les actes antisémites auraient ainsi progressé de plus de moitié l'an dernier aux États-Unis et l'accession de Donald Trump au pouvoir n'y est peut-être pas pour rien. Le président, comme sur d'autres sujets, s'est toujours montré ambivalent. Il n'insulte pas les juifs comme les mexicains ou les musulmans, il fait aussi figure d'allié pour Israël. Mais son attitude semble avoir libéré la haine d'une partie de ses partisans. Pendant sa campagne, il avait ainsi associé dans une vidéo plusieurs personnalités juives et la toute-puissance de l'argent. Parmi elles, le milliardaire George Soros, visé depuis par les pires théories du complot. Il a également reçu un colis piégé en début de semaine.
Robert Bowers sera poursuivi entre autres pour crimes antisémites. Il sera passible de la peine de mort, a déclaré le ministre de la Justice Jeff Sessions. La revendication revient régulièrement, empoisonnant les relations germano-polonaises. Le président polonais exige de nouveau aujourd'hui des réparations de guerre de l'Allemagne à quelques jours de consultations gouvernementales entre les deux pays prévues en fin de semaine à Varsovie. Mais Angela Merkel aura plutôt les yeux tournés vers Francfort aujourd'hui. Les électeurs de la Hesse renouvellent le Parlement régionale et la droite conservatrice au pouvoir devrait reculer au profit des écologistes et de l'extrême droite, le parti de l'AFD. Un scénario similaire à celui qui s'est déroulé en Bavière il y a deux semaines. La Hesse est la seule région allemande dans laquelle l'AFD ne siège pas. Jour de vote en Géorgie aussi et une Française pourrait devenir présidente du pays. Salomé Zourabichvili est une ancienne diplomate française d'origine géorgienne. Elle a renoncé à sa citoyenneté française pour se présenter à ce poste qui reste honorifique. 65% pour, 35% contre. Les Irlandais valident par référendum l'abrogation du délit de blasphème de la Constitution. Après le oui à la légalisation de l'avortement en mai et à celle du mariage homosexuel en 2015, les Irlandais prennent un peu plus leur distance avec l'Église catholique très puissante dans le pays. Philippe Gildas est mort cette nuit à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer. Homme de télévision et de radio, il a connu l'ORTF et Radio Luxembourg avant d'incarner Nulle part ailleurs, l'une des émissions emblématiques de Canal+, diffusée en clair de 1987 à 97. Émission dans laquelle Antoine Decaune avait fait ses débuts et il avait salué le départ de Philippe Gildas à sa manière.
T'es encore là les pagnoles ?
Hein ? J'attendais.
Ben, prends vite, sors bien, parce que dans 2 minutes, va falloir t'arracher. Je te dis pas comme ça va faire du bien de plus voir ta gueule tous les soirs dans le poste. Je vais me raser, du coup. Eh ouais, parce que là, j'ai fait un vœu. J'ai dit que je me rasais plus tant qu'il y avait ta gueule dans le poste. Tu comprends ?
Philippe Gildas, c'est aussi l'un des hommes qui a façonné la télévision française, selon l'animateur Michel Denisot.
Il a inventé un style qu'on appelle la barbarisme, l'infotainment, c'est-à-dire un mélange de divertissement et d'actualité, mais tout était information dans ce qu'il faisait, et c'était ça qui l'intéressait le plus, que ça, son métier de base, c'est le journalisme, il a dirigé des rédactions, il a fait plusieurs stations de radio, comme vous le savez aussi, mais il était très joueur et il pouvait pousser très très loin, et lui-même jouer très très loin et redevenir crédible dans le plus sérieux. Il pouvait se déguiser dans une émission et 3 minutes après interviewer le Premier ministre en étant extrêmement crédible et pertinent. Donc ça, c'est assez exceptionnel et c'est assez rare.
Et les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. Jean-Pierre Elkabbach, Jean-Pierre Foucault, Nikos Aliagas, Nagui, mais aussi le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux ont exprimé leur tristesse sur la plateforme Twitter. Et puis c'est une technique, disons, originale pour mesurer la pollution. En Bourgogne, le laboratoire du CNRS de l'Université de Besançon va utiliser une 50aine d'escargots pour évaluer la pollution de l'air et des sols. Ils espèrent mettre au point une nouvelle norme internationale pour déterminer la qualité de l'environnement et la contamination de la nature par divers types de polluants. Midi 39 sur France Culture, tout de suite la face cachée du globe avec Nabila Hamel. Bonjour Nabila.
Bonjour Lisa. Benjamin Netanyahou s'est rendu vendredi à Oman, une visite rarissime qui n'a d'ailleurs été divulguée qu'à son retour en Israël. Les deux pays n'entretiennent pas de relations diplomatiques et le dernier déplacement d'un premier ministre israélien à Mascate remonte à celle de Shimon Peres il y a 20 ans. Lorsqu'il a salué Saad Hariri au sommet économique de Riyad, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman s'est esclaffé. Il est là pour 2 jours, j'espère que vous n'allez pas dire qu'il a été kidnappé. Une allusion à la la démission, présentée depuis Riyad en novembre 2017 par le Premier ministre libanais, sur laquelle il est revenu une fois rentré dans son pays. Ministre de l'économie et vice-président du gouvernement conservateur de José María Aznar de 1996 à 2004, avant de diriger le FMI jusqu'en 2007, Rodrigo Rato a demandé pardon aux Espagnols avant d'être incarcéré jeudi à Madrid. L'ancien banquier a été condamné à 4 ans et demi de prison pour détournement de fonds dans la tentaculaire affaire Bankia. Demain, jour de fête nationale en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan inaugurera un projet pharaonique, le nouvel aéroport d'Istanbul qu'il veut le plus grand au monde. Le projet, Anandlauer, ne manque pas de détracteurs qui dénoncent une infrastructure démesurée et surtout une catastrophe écologique.
Il y a presque 5 ans, à ceux qui tentaient de faire annuler son grand projet d'aéroport, Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre, avait donné une réponse cinglante. Il est illégal d'empêcher ce projet, nos bulldozers seront bientôt là. Effectivement, après 3 ans et demi de travaux et de polémiques jamais éteintes, le désormais président turc s'apprête à inaugurer le plus grand aéroport du monde. Construit sur un terrain de plus de 76 millions de mètres carrés, il comptera dans quelques années 6 pistes dont pourront décoller 200 millions de voyageurs annuels. Pour l'instant, cependant, seules 5 destinations seront desservies par Turkish Airlines au départ de l'aéroport. Ce n'est que le 31 décembre, sauf retard, que l'aéroport atteindra sa capacité intermédiaire de 90 millions de passagers par an. Pour les écologistes, les urbanistes et même les économistes, les motifs d'inquiétude abondent. Pour construire l'infrastructure, le consortium turc bâtisseur a dû débourser au départ plus de 22 milliards d'euros. Il a dû raser une zone couverte à 80% de forêt, une zone considérée pendant des décennies comme intouchable, comme le poumon vert d'Istanbul. Bientôt, il n'en restera plus grand-chose, car le nouvel aéroport n'est qu'une pièce d'un immense puzzle qui a déjà vu une large autoroute et un 3e pont sur le Bosphore poussé dans le nord d'Istanbul. D'ici quelques années, un projet de 2e Bosphore baptisé Canal Istanbul et une ville nouvelle verront aussi le jour dans la zone.
Cap sur l'Éthiopie, pays qui a depuis jeudi une femme à sa tête en la personne de Saïlé Zouidé, une ancienne diplomate. C'est une première, même si la Constitution octroie l'essentiel du pouvoir au Premier ministre. Et le Premier ministre, c'est Abiy Ahmed depuis avril, un homme pour la première fois issu du plus grand groupe ethnique du pays, les Oromos, qui s'est entouré d'un gouvernement dont la moitié des postes sont occupés par des femmes. René Lefort, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la Corne de l'Afrique. Abiy Ahmed se présente comme un réformateur. En 6 mois, quel bilan peut-on faire de son action ?
Son bilan, en tous les cas, est positif parce qu'il a débloqué une situation qui avait amené, pour employer un mot d'un opposant éthiopien connu, l'Éthiopie aux portes de l'enfer. Hein. Bon, il a fait ensuite toute une série de réformes fondamentales, libérer les prisonniers politiques, autoriser les partis d'opposition, y compris armés, à revenir au pays, normaliser les relations avec l'Érythrée, qui sont des pas en avant considérables. Ceci dit, le problème est que, d'une part, il n'a pas la base de pouvoir structuré dont il a besoin pour réellement gouverner le pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque le couvercle de la marmite se soulève, tous les vieux conflits ethniques ou même locaux qui jusque-là étaient tenus d'une main de fer ont éclaté. Donc, le dilemme devant lequel il se trouve aujourd'hui est le suivant. Comment restructurer un pouvoir suffisamment fort tout en n'étant pas autoritaire pour rétablir un peu d'ordre dans le pays.
Et vous parliez de la réconciliation avec l'Érythrée. Les responsables des deux pays ont été reçus chaleureusement. Ils ont affiché leur volonté de résoudre leurs différends, notamment frontaliers. Où en est aujourd'hui cette réconciliation ?
On est dans une situation extrêmement bizarre, c'est que les populations des deux côtés ont bousculé la frontière. Des Érythréens se précipitent en Éthiopie, des Éthiopiens se précipitent en Érythrée. Les camions transportent des produits, ils font du commerce à tour de bras. Mais tout ça se fait dans le flou le plus total. Ensuite, la question qui était une question cruciale, qui était la question de la frontière. Quand est-ce que cette frontière va être rétablie ? Tout ça, on ne le sait pas. On n'est jamais rentré dans le concret.
Merci à vous, René Lefort. Je rappelle que vous êtes chercheur indépendant et spécialiste de l'Éthiopie. Les Cubains sucrent désormais leur café avec un sucre de betterave importé de France à défaut du traditionnel sucre de canne local. En cause, une chute progressive de la production sucrière à laquelle se sont ajoutés les ravages de l'ouragan Irma et une longue saison des pluies. Si les consommateurs de l'île le trouvent plus fin, plus brillant, la potion n'en est pas moins amère pour l'économie d'un pays qui était l'un des premiers exportateurs mondiaux de sucre. À dimanche prochain.
À dimanche prochain. prochain. La face cachée du monde est à retrouver sur franceculture.fr. Les températures restent très fraîches pour ce dimanche un peu partout en France. Quelques éclaircies sur la côte atlantique, grisailles au centre et au sud-ouest, de la pluie sur l'est et sur le pourtour méditerranéen. Les Alpes-Maritimes, la Corse du Sud, la Haute-Corse ont été placées en vigilance orange aux orages et pluies inondations par Météo France. Les températures ne devraient pas dépasser 6 à 10 degrés cet après-midi. Cette édition a été préparée avec Martin Descloseaux et Alexandre Dingue à la réalisation. Il est 12h45 sur France Culture. Nous retrouvons Marc Weitzmann pour Signe des Temps.